Allez, c'est le moment d'accueillir notre premier invité. Dans une première vie, il a été médecin, puis il est devenu chef. Un chef engagé au service du goût. Bruno Verjus publie un essai, L'art de nourrir, chez Flammarion. Un livre magnifique. Bonjour Bruno Verjus.
Bonjour.
Vous avez deviné quand j'ai dit que vous aviez été médecin. Vous avez fait des études de médecine.
Non, j'ai fait des études de médecine, mais vous avez fait un saut quantique. C'est-à-dire qu'avant, j'ai aussi été chef d'entreprise.
Vous avez fait plein de métiers.
Médecin et cuisinier, c'est un peu pareil.
J'ai jamais finalement rien fait. Tu vois, j'ai toujours sauté de l'un à l'autre comme ça, même aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis chef en réalité, je suis un cuisinier.
En tout cas, vous êtes un cuisinier qui régale les Parisiens à table. C'est le nom de votre restaurant dans le 12e arrondissement à deux pas de la Bastille.
Oui.
On en parlait tout à l'heure, dans 11 jours c'est l'ouverture des terrasses. Vous allez ouvrir dans 11 jours, Bruno Verjus?
Non, je n'ouvre pas, j'ouvrirai le 29 juin.
D'accord. Ah oui, parce que vous avez aussi, comme on en parlait tout à l'heure, entre guillemets, des soucis de retrouver le personnel et de remobiliser les forces vives, parce que d'autres ont choisi d'autres métiers aussi.
Oui, il faut reconstituer une équipe, absolument, c'est important. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que, probablement comme moi, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur le sens de leur vie, qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire, comme moi, en sautant comme ça de vies différentes, ce qui a le bonheur de les rendre plus longues, sans doute, eh bien, les équipes aussi ont décidé de bouger un peu, mais comme ils ont bougé, d'autres ont décidé aussi de bouger et de venir chez moi.
Alors vous venez nous voir avec ce livre, L'art de nourrir, et je le dis à nos auditeurs, il faut lire ce livre parce que c'est un régal, c'est une caresse pour l'oreille. On se balade, on déguste à travers nos régions et le meilleur de nos produits parce que vous êtes un amoureux et un défenseur de nos produits comme de nombreux chefs. On va en parler dans un instant, mais vous avez un rapport particulier aux produits. Il remonte à quand ce goût pour la cuisine chez vous, Bruno Verjus?
Ben, vous savez, quand j'ai décidé finalement de faire la cuisine, j'ai un peu résumé ce que j'étais moi profondément, donc un enfant de la campagne qui a grandi à la campagne, au milieu des vergers, du côté de Roanne, la Renaison exactement, entre une rivière, un verger, etc. Et puis, ce que j'ai appris au cours de mes études, ce que j'ai appris au cours de ma vie. Et donc, c'est vrai que, probablement, cette implémentation du goût, elle vient de mon enfance, et que je l'ai résumé un peu tardivement, enfin, pas si tardivement que ça, parce que j'ai quand même passé une grande partie de ma vie à manger dans des restaurants, mais que je l'ai résumé de façon encore plus pertinente en faisant la cuisine, depuis 8 ans chez Table.
Pas de grande cuisine sans bons produits, disait Paul Bocuse. C'est un adage que de nombreux chefs, en tout cas, ont récupéré. Alors, qu'est-ce que ça a de plus pour vous, ce rapport aux produits que tous ces chefs qui valorisent et qui mettent en avant justement le produit? Parce que vous allez rechercher des volailles d'exception, des poissons d'exception. Vous avez un rapport particulier avec l'île-Dieu. C'est quoi votre rapport aux produits? Vous le définiriez comment? D'ailleurs, vous le dites dans le livre, j'aime bien parler de produits. Et pas d'ingrédients, c'est pas pareil.
Oui, parce qu'un ingrédient, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est finalement un amalgame avec l'agro-industrie qui décide qu'un poulet, c'est un poulet, etc. Alors que, évidemment, il n'y a aucun rapport entre un poulet de batterie et une grande et belle volaille de Barbezieux ou de La Flèche ou de Le Mans, qui sont ces volailles anciennes que j'affectionne particulièrement. Voilà, ça n'a pas de rapport. Moi, je crois que mon rapport au produit, il est finalement très naturel. Je le plaide devant mon camarade Yves Camdebord, mais évidemment, on ne peut pas envisager de faire une belle cuisine sans avoir un produit dont qu'on soit fier de cuisiner, de faceter et de faire déguster surtout à nos clients. On fait à manger pour nos clients. Notre objectif, c'est quoi? C'est les bien nourrir, c'est leur faire du bien. Et alors aujourd'hui, on est dans un tel appauvrissement de la relation et même de la négation de la relation que vous imaginez bien qu'il faut encore plus donner, plus faire attention et nourrir, aimer justement à en nourrir.
Vous le dites depuis 2012, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit.
Oui, c'est l'aphorisme finalement qui m'a fait créer Table, parce que j'ai trouvé que c'était très important, pour vous le dire rapidement, c'était de dire, voilà, si vous allez acheter des produits à l'agro-industrie, si vous allez manger dans ces marques industrielles, etc., ne vous plaignez pas que vous êtes dans un monde qui ne vous correspond pas, que vous trouvez injuste, que vous trouvez abîmant la planète, etc. C'est parce que vous en êtes le premier banquier. Si vous allez acheter les produits à des artisans qui sont respectueux de la nature, qui sur un petit marché, etc., et que vous faites un peu la cuisine avec ça,
bien,
soyez fiers, vous êtes le financier d'une belle planète.
Il y a aussi un problème de pouvoir d'achat.
Alors, c'est une fausse question. J'ai toujours résisté par rapport à ça, je suis désolé, mais acheter un kilo de carottes fraîches, un citron et une bouteille d'huile d'olive, ça coûte probablement bien moins cher que d'aller acheter un sachet de carottes déjà
râpé. C'est sûr, on en a parlé la semaine dernière,
voilà.
C'est sûr.
Donc, et pareil pour le steak haché, qu'est-ce qu'on achète dans un steak haché chez son boucher qui va coûter 30% plus cher qu'un steak haché industriel, mais il y aura 90% de protéines.
Ouais, mais sur la belle volaille qu'on trouve chez vous à table,
la
vous vendez
volaille,
un certain
la
prix.
La belle volaille sur un marché... quand on fait le marché, ça vaut quoi? Ça vaut 7-8 euros le kilo. Ça ne vaut pas 60 euros le kilo, comme chez certains bouchers qui profitent aussi de leur notoriété ou de la situation. Donc encore une fois, moi ce que j'appelle, et notamment ça, j'engage tout le monde à acheter mon livre, à le lire, parce qu'il en va d'un principe d'éducation. Encore une fois, pour pratiquer de la belle cuisine et nourrir bien, il faut aussi s'éduquer, il faut aussi se cultiver, apprendre à regarder. Sur un marché, moi, je peux témoigner, moi, j'ai beaucoup appris de choses avec mon camarade de droite qui est Yves Camdebord. Il m'a appris aussi à regarder et à comprendre les produits.
Alain Passard, Alain Chapelle, vous en parlez, ouais. Christophe Pellet, Bernard Paco sont des chefs qui vous ont influencé aussi.
Laurent, le bon produit, bon, certes, il y a des produits qui aujourd'hui sont reconnus dans le monde de la gastronomie, mais le bon produit, ça peut être tout simplement le maraîcher qui est à côté de chez vous ou le volailler qui élève ses volailles, même si elles n'ont aucune appellation. C'est un bon produit et c'est là que ça reste plus qu'accessible et que ce n'est pas plus cher que d'aller dans la grande distribution acheter un blanc de volaille tout prêt ou un sac de carottes taillées.
On en revient toujours à la même conclusion. Voilà. Pour bien manger et sans se ruiner, il faut cuisiner.
Voilà. Il faut cuisiner et il faut former son œil et l'éduquer à choisir sur un marché qu'est-ce qui fait sens, où est la fraîcheur, où est l'intention, où est l'amour d'une certaine
façon. C'est une question de culture. Bon, on s'y emploie évidemment autour de cette table tous les samedis à rabâcher de manière presque méthodique ces préceptes. Mais finalement, comment on fait pour toucher aussi les gens qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas la chance de nous écouter tous les samedis, mais ou d'avoir des gens qui vont les guider, parce que c'est ça, il faut aller chercher une population qui continue envers et contre tout à acheter, excusez-moi l'expression, de la merde.
Ben, c'est pour ça, je crois que moi, il faut écrire des livres. Moi, j'ai écrit ce livre aussi pour ça, parce que finalement, c'est une façon de montrer, en déclenchant aussi une forme de rêverie, un rapport à la cuisine qui n'est pas un rapport pratique avec des fiches recettes, avec des choses comme ça, mais montrer plutôt un univers et dire à chacun vous êtes capable d'envisager dans le contexte d'un marché quand vous vous promenez que telle ou telle chose est intéressante et moi je vais par mes mots, par mon expérience, par ma fantaisie vous donner l'occasion de passer à l'acte, c'est-à-dire de dire tiens cette salade je vais la faire avec ça, je vais prendre ceci, je vais prendre cela et je vais nourrir ma famille avec.
L'art de nourrir, c'est votre livre, Bruno Vergy aux éditions Flammarion. Vous le dites d'ailleurs, vous avez appris la cuisine dans les livres. Eh bien, en lisant le vôtre, on apprend plein de choses justement sur l'importance de se reconnecter avec le bon produit et les justes cuissons. On en parle justement après avec les beaux produits de printemps, les petits pois, la rhubarbe, ça vous inspire. Les rougets.
Formidable.
On a été pêcher le rouget tout à l'heure. Vous allez nous dire, tiens, comment
les
cuisiner
rougets,
le
vous
rouget.
Me prenez par les sentiments.
Mais je sais, c'est pour ça, on va parler de vos émotions. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà avec Bruno Vergy, le chef de table dans le 12e arrondissement de Paris. Il vient nous voir avec son livre « L'art de nourrir » aux éditions Flammarion, itinéraire d'un amateur devenu professionnel. Et quel professionnel ? Alors, l'amateur, tiens, le goût de l'amateur, on pourrait dire qu'il s'est aussi forgé du côté de l'île-Dieu, les poissons de votre enfance. Le rouget, on est allé le pêcher tout à l'heure en Méditerranée. Il y en a aussi en Atlantique du côté de l'île-Dieu. Vous avez un rapport particulier avec ce poisson, Bruno Vergy ?
Oui, le petit rouget, ça m'a toujours fasciné. D'abord parce que c'est finalement un peu, c'est un peu le chat de la mer. Il a des moustaches comme ça et puis il est un petit peu espiègle. Et moi, je me souviens petit, je mettais mon masque, mon tuba comme ça et je restais des heures dans l'eau à les regarder. Ce qui fait qu'après, quand je sortais, évidemment, je ressemblais à un rouget parce que j'avais le dos qui était totalement brûlé à la c'est fois vrai. De soleil et de sel. Donc, il y avait un mimétisme qui faisait qu'au bout d'un moment, le rouget m'adoptait. Et j'en avais pas encore la fantaisie de le goûter. J'avais simplement la passion de le regarder finalement se promener comme ça d'algue en algue sur les petits rochers et farfouiller un peu partout.
Oui, le farfouilleur.
Pour ça que je l'appelle le farfouilleur, d'ailleurs, qui est une stricte invention.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand vous vous êtes mis à le cuisiner, vous avez été triste parce qu'il a perdu sa couleur, le rouget.
Alors, c'est jamais facile un rouget parce qu'il y a une telle beauté, il y a de tels éclats dans ces orangés safranés jusqu'au rouge, comme ça, qu'on en a presque, on en a la saveur déjà, je veux dire, quand on le voit en vrai. Alors après, c'est vrai, quand on le cuisine, on a tendance un petit peu à dégrader ça. Et alors, j'ai trouvé une façon qui m'amuse beaucoup.
On en a parlé ici, allez-y, racontez-nous.
Vous en avez parlé déjà, alors.
Bah, non, mais racontez.
Voilà. Bah, non, c'est simple, c'est de le travailler finalement dans une tradition de méditerranéenne, parce que le rouget, ça amène le soleil, ça amène le coucher de soleil. Moi, je dis souvent, le rouget, c'est celui qui finalement a gardé le soleil toute la nuit au fond de la mer, et donc qui le récupère le soir et qui va le re-rendre le matin quand le soleil sort rouge de la mer. C'est vraiment ça. Alors, je fais une forme de petite tempura, mais avec une farine de riz ou une farine de pois chiche, une réduction d'hibiscus qui amène le léger acidité, et parce que souvent, on va mettre sur une friture un jus de citron qui va désoler les goûts et absolument annihiler toute la beauté, la fantaisie de la friture. Et là, l'hibiscus va amener cette note légèrement florale et conservée.
Et la rougeur.
Évidemment, le rouge magnifique de notre petit rouget qui sort presque vivant de la casserole.
Alors, c'est la saison des petits pois, des asperges, des fraises, de la rhubarbe. Nos auditeurs ont des questions pour vous. Une première question au 39-21.
Bonjour Bruno Verju, Laurent, et bonjour à toute l'équipe. Nathalie de Nuit-Saint-Georges. Nous avons deux rangées d'asperges vertes dans notre jardin et j'aimerais avoir des idées de recettes avec ce produit pour ne pas forcément les manger de la même façon. D'ailleurs, je suis en pleine préparation d'un risotto aux asperges pour ce midi. Merci à vous et bonne émission.
Oh, eh bien, merci beaucoup et vous avez bien raison de risoter. Ça, c'est très important de risoter, mais on peut faire plein d'autres choses avec l'asperge verte.
Oui, moi je trouve ça formidable parce que quand elle va faire son risotto, on va utiliser plein de parties de l'asperge. C'est les parties un petit peu plus ligneuses, un peu plus difficiles qu'on a tendance à écarter. Dans le cadre d'un risotto, elle les aura taillées assez finement et ça va marcher. Ça peut même ramener un petit croquant qui va évoquer le riz. C'est formidable. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les têtes? Moi, en ce moment, il y a une chose que j'adore, c'est travailler l'asperge avec du cresson. Ça se trouve là-bas, dans sa région, elle peut récupérer du cresson de fontaine formidable. Asperge-cresson. Je fais une belle vinaigrette. Alors, là-bas, on va utiliser quoi? Une belle huile de noix, une belle huile de noisette, un joli vinaigre de vin. Évidemment, il y a des beaux vinaigres de vin. On va vraiment, vraiment appuyer sur la vinaigrette. Le cresson, on peut rajouter quelques herbes encore si on veut. On a de l'ail en ce moment, on n'en a pas parlé, mais c'est le printemps. L'ail nouveau qui n'a pas fait sa tête encore comme ça, des jolies cives. Et puis moi, j'aime la marier avec un petit peu d'anguille fumée. Oh. Et il y a quelque chose qui est formidable parce que ça nous ramène au printemps et ça nous remet finalement dans ces petits ruisseaux dans lesquels le cresson passe et on verrait bien une anguille se faufiler, non?
Sans aucun problème. Mais ce qui est bien aussi avec l'asperge, et souvent les gens n'osent pas le faire, c'est le cru. Voilà. À la limite, c'est juste cuire les têtes, les blanchir fortement, très légèrement, et après, les queues restantes, les couper très finement, alors soit à la mandoline, ou alors plus simplement, avec un économe, faire des pluches, voilà, et faire ce mélange cuit-cru avec votre coup de cœur, Laurent,
dites-moi,
de la semaine, les fraises.
Les fraises.
Asperges cuites et crues, un peu de gingembre et juste un trait d'huile d'olive.
Ah, c'est intéressant parce qu'il y avait Emmanuel sur le groupe Facebook des Bons Vivants qui voulait une association fraise-asperge. Ouais. Moi, je ne connaissais pas cette association.
Ouais, et ça m'a... Laurent, vous savez, la cuisine, pour simplifier les choses, les produits de saison, ils se marient très facilement ensemble.
Une autre question au 39-21.
Bonjour Laurent, toute l'équipe et Bruno Verju, Catherine de l'Oise. J'apprécie tout particulièrement la rhubarbe et je souhaiterais avoir des idées pour la cuisiner, pour accompagner un plat salé et aussi en amuse-bouche. Merci beaucoup.
Ah, la rhubarbe, Bruno Verju, elle vous inspire la rhubarbe?
La rhubarbe, c'est terriblement inspirant. On parlait tout à l'heure de l'hibiscus en amuse-bouche. Moi, je pense qu'on peut travailler quelque chose d'intéressant. C'est qu'elle va tailler son bâton de rhubarbe, faire une belle réduction d'hibiscus très très chaude et la verser sur la rhubarbe qui va venir se tenspérer comme ça.
Jus d'hibiscus, on le trouve, on peut le trouver
déjà. Oui, on achète des fleurs d'hibiscus et puis on fait...
D'accord, mais on peut le trouver en jus déjà aussi.
Des questions. Peut-être qu'on peut le trouver en jus, je ne sais pas, c'est probable. Mais en tout cas,
infusion,
on peut trouver les fleurs séchées dans tous les endroits où on vend des herbes et des tisanes. Et la travailler comme ça, donc elle va être extrêmement, extrêmement tendre. Et justement, on peut évidemment l'associer, par exemple, avec des fraises. Moi, j'aime beaucoup aussi associer la rhubarbe juste tombée comme ça. Et puis, je fais une petite mousseline avec un beurre noisette. Donc, on enrichit quand même assez notre rhubarbe qui amène l'acidité, la fraîcheur. Mais il y aura la gourmandise du beurre noisette. Et l'associer avec quelques petits pois, mais qu'on a tombé 20 secondes dans un petit peu d'eau gazeuse et une goutte d'huile d'olive, quelques pistaches... Et puis, un petit peu de persil plat, par exemple. Et on
a un plat
magnifique.
Il donne envie, le gaillard. Il s'appelle Bruno Verju. C'est un plaisir de vous avoir à cette table, vous, le chef de table, de nous parler de cet art de nourrir. On a entendu votre rapport aux mots, aux émotions, aux sensations et aux sentiments que procure et déclenche la cuisine. Je vous engage vraiment à lire ce livre, qui est un joli manifeste pour le plaisir et puis pour aussi se reconnecter à nos essentiels, nos fameux essentiels, les produits de nos régions.
Moi, je trouve que c'est un livre qui est très sensuel.
Exactement, oui,
c'est vraiment
absolument.
Très sensuel.
Oui,
il faut le lire.
Merci Bruno Verju et à table bientôt, chez Table. On revient avec vous, Olivier Poul, c'est vos 2 minutes du vin.
Tout à l'heure, oui.
Particulière, 120. Ah, oui, alors, deux minutes du vin sans vin, ça va être compliqué.
Laurent, me dites pas qu'Olivier a perdu les clés de la cave, c'est pas possible.
Écoutez, on va vous en dire plus, mais
vous avez un pied de biche, sinon c'est ça.
J'arrive.
Et attention, un chef peut en cacher un autre. Le jeune chef Maurice Acco est notre invité dans un instant. À tout de suite.